Histoire de la Réformation du XVIe siècle 15.2 Un état militaire. Irrésolution de Berne. Berne se joint à Zurich. Le signal de Zwingli. Les anabaptistes à Berne. Le peuple se prononce pour la liberté. Lutte. Dispute proposée. Protestation de Wahlstedt. Protestation des évêques. L'Église juge des controverses. Zwingli veut accourir. Caravane évangélique. L'Église des Cordeliers. Ouverture de la conférence. L'unité. Prêtre converti à l'autel. Fête de Saint-Vincent. Dernier Magnificat. Les bouchers. Fin, les autels détruits, douleur des papistes, sermon d'adieu de Zwingli, amnistie, triomphe de Zwingli, édit de réforme, les faux alliés de la réforme. De tous les cantons de la Suisse, Berne paraissait le moins disposé à la réformation. Un état militaire peut être zélé pour la religion, mais ce sera pour une religion extérieure et disciplinée. Il lui faut une organisation ecclésiastique qu'il voit, qu'il touche, qu'il manie à son gré. Il craint les innovations et les libres mouvements de la parole de Dieu. Il aime la forme et non la vie. Napoléon restaurant la religion en France par le Concordat en est un mémorable exemple. C'était aussi le cas de Berne. Le gouvernement y était d'ailleurs absorbé par les intérêts politiques. Et, quoiqu'il ne fît pas grand cas de la puissance du pape, il se souciait encore moins de voir un réformateur se mettre comme Zwingli à la tête des choses publiques. Quant au peuple, mangeant le beurre de ses vaches et la graisse de ses agneaux, il restait strictement enfermé dans le cercle étroit de ses besoins matériels. Les questions religieuses n'étaient du goût ni des chefs ni de leurs subordonnés. Le gouvernement bernois, novice en fait de théologie, s'était proposé d'arrêter le mouvement de la réforme par son édit de 1523. Quand il vit sa méprise, il se rapprocha des cantons de l'ancienne foi, et tandis que la partie du peuple où se recrutait le grand conseil prêtait l'oreille à la parole des réformateurs, la plupart des familles patriciennes qui composaient le petit conseil, se croyant menacées dans leur puissance, leurs intérêts et leurs honneurs, s'attachaient à l'ancien ordre des choses. Il résulta de cette opposition des deux conseils un malaise général, mais pas de choc violent. Des mouvements subis, des tressaillements répétés, annonçaient de temps en temps que des matières incompatibles fermentaient dans la nation. Il y avait comme un tremblement de terre sourd qui élevait toute la surface sans que l'on y vît de déchirure. Puis, bientôt, tout rentrait dans une tranquillité apparente. Berne, toujours si ferme dans sa politique, se jetait en religion tantôt à droite, tantôt à gauche, et déclarait ne vouloir être ni papiste ni réformé. Gagner du temps, c'était pour la foi nouvelle tout gagné. Ce que l'on fit pour détourner Berne de la réforme fut ce qui le précipita. L'orgueil avec lequel les 5 cantons primitifs prétendirent s'arroger la tutelle de leurs confédérés, les conférences secrètes auxquelles Berle n'était pas même invité, et la menace de s'adresser directement au peuple blessèrent profondément les oligarques bernois. Le carme lucernois, Thomas Murner, l'un de ces hommes grossiers qui agissent sur la populace, mais qui inspirent un sentiment de dégoût aux esprits élevés, fit déborder la coupe. Furieux contre le calendrier zurichois, d'où l'on avait retranché les noms des saints, il lui opposa l'almanach des hérétiques et voleurs d'église, écrit plein de pasquinades et d'invectives, où les figures des réformateurs et de leurs adhérents, parmi lesquels étaient plusieurs des hommes les plus considérés de Berne, se trouvaient accompagnés des plus grossières inscriptions. Zurich et Berne demandèrent ensemble satisfaction, et dès lors, l'union de ces deux États devint toujours plus intime. On s'aperçut bientôt à Berne de ce changement. Les élections de 1527 portèrent dans le Grand Conseil un nombre considérable des amis de la Réforme. Aussitôt, ce corps, ressaisissant le droit de nommer les membres du Petit Conseil, usurpé depuis 20 ans par les Bannerets et les Seize, écarta du gouvernement les partisans les plus décidés de la hiérarchie romaine. Entre autres, Gaspard de Mulinen et Sébastien de Stein, et les remplaça par des membres de la majorité évangélique. L'union de l'Église et de l'État, qui avait arrêté jusqu'alors en Suisse les progrès de la Réforme, devait maintenant les hâter. Haller n'était pas le seul réformateur dans Berne. Kolb avait quitté la Chartreuse de Nuremberg, où il avait dû s'enfuir, et s'était présenté à ses compatriotes en ne demandant d'autre salaire que la liberté d'annoncer Jésus-Christ. Déjà courbé sous le poids des années et la tête couronnée de cheveux blancs, Kolb, jeune de cœur, plein de feu et d'un inébranlable courage, portait hardiment devant les premiers de la nation l'évangile qu'il avait sauvé. Haller, au contraire, à peine âgé de 35 ans, marchait d'un pas mesuré, parlait avec gravité et annonçait la nouvelle doctrine avec des ménagements inouïs. Le vieillard avait pris le rôle du jeune homme, et le jeune homme celui du vieillard. Zwingle, à qui rien n'échappait, vit que l'heure favorable allait sonner pour Berne, et aussitôt il donna le signal. La colombe, chargée d'examiner l'état des eaux, revient dans l'arche avec une branche d'olivier, crie-t-il à Haller. Sortez maintenant, nouveau Noé, et prenez possession de la terre. Pressez, insistez, jetez tellement au fond du cœur des hommes les crocs et les hameçons de la parole de Dieu qu'on ne puisse plus jamais s'en défaire. Vos ours, s'écrivait-il à Thomas Ab Offen, vos ours ont de nouveau sorti leurs ongles. Plaise à Dieu qu'il ne les rentre qu'après avoir mis en pièces tout ce qui s'oppose à Jésus-Christ. Haller et ses amis allaient répondre à cet appel quand leur situation se compliqua. Des anabaptistes, qui formaient partout l'extrême gauche ou le parti radical, arrivés à Berne en avril 1527, détournaient le peuple des prédications évangéliques à cause de la présence des idoles. Haller eut avec eux une conférence inutile. À quel danger la chrétienté n'est-elle pas exposée, s'écriait-il, par l'adresse subreptice de ces furies. Il n'y a jamais de réveil dans l'Église sans que des sectes hiérarchiques ou radicales ne viennent aussitôt le troubler. Haller, effrayé, gardait pourtant son inaltérable douceur. Le magistrat veut les bannir, disait-il, mais notre tâche est de repousser leurs erreurs et non leurs personnes. N'employons d'autres armes que le glaive de l'esprit. Ce n'est pas de la papauté que les réformateurs avaient appris ces principes. Une dispute publique eut lieu. 6 anabaptistes se déclarèrent convaincus et 2 autres furent renvoyés du pays. Le moment décisif approchait. Les 2 grandes puissances du siècle, l'Évangile et la papauté, se remuaient avec une égale énergie. Les conseils bernois devaient se prononcer. Ils voyaient d'un côté les 5 cantons primitifs prendre une attitude toujours plus menaçante et annoncer que l'Autrichien reparaîtrait bientôt dans l'Helvétie pour la remettre sous l'obéissance de Rome. De l'autre, l'Évangile gagnait chaque jour plus de terrain dans la Confédération. Qui devra l'emporter en Suisse? Les lances des Autrichiens ou la parole de Jésus-Christ? Dans l'incertitude où se trouvaient les conseils, ils résolurent de s'attacher à la majorité. Où trouver un terrain ferme si ce n'est là? Vox populi, vox dei. Nul, dirent-ils, ne peut faire quelque changement de son autorité privée. Il faut le consentement de tous. Le gouvernement de Berne avait à se décider entre deux mandements, émanés l'un et l'autre de sa chancellerie. Celui de 1523, en faveur de la prédication libre de l'Évangile, et celui de 1526, en faveur des sacrements, des saints, de la Mère de Dieu et des ornements des églises. Les messagers d'État partirent et parcoururent les communes. Le peuple donna sa voix contre toute loi contraire à la liberté. Et les conseils, appuyés de la nation, arrêtèrent que la parole de Dieu devait être prêchée publiquement et librement, quand même elle serait opposée aux ordonnances et aux doctrines des hommes. Telle fut la victoire de l'Évangile et du peuple sur les oligarques et les prêtres. Aussitôt, l'on se trouva aux prises dans tout le canton, et chaque commune retentit d'évangéliques débats. Les paysans se mirent à disputer avec les prêtres et les moines en s'appuyant sur la Sainte Écriture. Si le mandement de nos seigneurs, disaient plusieurs, accorde à nos pasteurs la liberté de prêcher, pourquoi n'accorderait-on pas aux troupeaux la liberté d'agir? Paix, paix, répondaient les conseils, effrayés de leur propre audace. Mais les troupeaux déclaraient hardiment qu'ils renvoyaient la messe et gardaient leur pasteur et la Bible. Alors, les partisans du pape poussaient des cris, hérétiques, polissons. Bayard, disait aux bons habitants de l'Emmental le banneret Cutler, et ses paysans l'obligeaient à leur donner satisfaction. Le bailli du Trachewald fut plus habile. Voyant le peuple de Rudersweil écouter avec avidité la parole de Dieu que lui prêchait un pieux ministre, il vint avec des fifres et des trompettes interrompre le sermon. Et invita par ses paroles et ses fanfares les filles du village à quitter l'église pour le bal. Ces singulières provocations n'arrêtaient pas la réforme. Six tribus de la ville, celles des cordonniers, des tisserands, des marchands, des boulangers, des tailleurs de pierres et des charpentiers, abolissaient dans les couvents et les églises de leur ressort les messes, les anniversaires, les patronages et les prébendes. Trois autres, celles des tanneurs, des forgerons et des tailleurs, s'apprêtaient à les imiter. Les sept dernières étaient indécises, sauf celle des bouchers, enthousiastes du pape. Ainsi, la majorité de la bourgeoisie avait embrassé l'Évangile. Plusieurs communes du canton avaient fait de même, et Lavoyer d'Erlat, ce grand adversaire de la réforme, ne pouvait plus contenir le torrent. On essaya pourtant. On ordonna au bailli d'avoir l'œil sur les dissipations et la vie dissolue des moines et des nonnes. On éloigna même des monastères toutes les femmes de mauvaises mœurs. Mais ce n'était pas seulement à ces abus que la réformation en voulait. C'était encore aux institutions elles-mêmes et à la papauté sur laquelle elles reposaient. On devait donc se décider. Il faut, disait-on, que le clergé bernois soit convoqué, comme celui de Zurich l'a été, et que l'on discute les deux doctrines dans une conférence solennelle. On agira ensuite, conformément aux résultats. Le dimanche après la fête de Saint-Martin, le conseil et la bourgeoisie, d'une voix unanime, arrêtèrent qu'une dispute aurait lieu au commencement de l'année suivante. La gloire de Dieu et sa parole, s'écriait-on, vont enfin se montrer. Bernois et étrangers, prêtres et laïcs, tous furent invités par lettre ou par avis imprimé à venir débattre les questions controversées, mais par l'écriture seule, sans les gloses des anciens, et en renonçant aux subtilités et aux injures. Qui sait, disait-on, si tous les membres de l'antique confédération des Suisses ne pourront pas, de cette manière, être amenés à l'unité de la foi. Ainsi, dans les murailles de Berne allait se livrer la bataille qui devait décider du sort de la Suisse, car l'exemple des Bernois ne pouvait manquer d'entraîner une grande partie de la confédération. Les 5 cantons, effrayés à cette nouvelle, s'assemblèrent à Lucerne. Fribourg, Soleure et Clarisse se joignirent à eux. Il n'y avait rien, ni dans la lettre, ni dans l'esprit du pacte fédéral, qui peut gêner la liberté religieuse. Tout État, disait Zurich, est libre de choisir la doctrine qu'il veut professer. Les Waldstädte, au contraire, voulaient enlever au canton cette indépendance et les assujettir à la majorité fédérale et au pape. Ils protestèrent donc, au nom de la Confédération, contre la dispute proposée. « Vos ministres, écrivirent-ils à Berne, éblouis et renversés à Bade par l'éclat de la vérité, voudraient, par cette nouvelle dispute, se farder le visage. Mais nous vous sollicitons de vous désister d'un dessein si contraire à nos anciennes alliances. » « Ce n'est pas nous qui les avons enfreintes, répondit Berne. C'est bien plutôt votre orgueilleuse missive qui les anéantit. Nous ne nous désisterons pas de la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les cantons romains décidèrent alors qu'ils refuseraient tout, sauf conduit, à ceux qui se rendraient à Berne. C'était faire présager de sinistres desseins. Les 4 évêques suisses de Lausanne, de Constance, de Bâle et de Sion, invités à venir à la conférence, sous peine de perdre leurs privilèges dans le canton de Berne, répondirent que, puisqu'il s'agissait de discuter d'après les Écritures, ils n'avaient pas à s'en mêler. Ainsi, ces prêtres oubliaient ces paroles de l'un des plus illustres docteurs de Rome dans le 15e siècle. Dans les choses du ciel, l'homme doit être indépendant des hommes et ne dépendre que de Dieu seul. Les docteurs de Rome firent comme les évêques. Eck, Murner, Coclet, d'autres encore, répétaient partout. Nous avons reçu les lettres de ce lépreux, de ce damné, de cet hérétique Zwingle. On veut prendre la Bible pour juge, mais la Bible a-t-elle une voix pour crier contre ceux qui lui font violence? Nous ne nous rendrons pas à Berne. Nous ne traiterons pas dans ce coin obscur. Nous n'irons pas nous battre dans cette caverne ténébreuse, dans cette école hérétique. Que ces scélérats viennent en plein air et luttent avec nous en rase campagne, s'ils ont, comme ils le disent, la Bible pour eux. L'empereur ordonna qu'on ajournât la dispute. Mais le jour même de l'ouverture, le conseil de Berne lui répondit que, tout le monde étant déjà réuni, un délai était impossible. Ainsi, malgré les docteurs, malgré les évêques, l'Église helvétique s'assemblait pour juger des doctrines. En avait-elle le droit? Non, si les prêtres et les évêques ont été institués, comme Rome le prétend, pour être un lien mystique entre l'Église et le Seigneur. Oui, s'ils n'ont été établis, comme la Bible le déclare, que pour satisfaire à cette loi d'ordre, en vertu de laquelle toute société doit avoir des chefs qui la dirigent. Le sentiment des réformateurs suisses à cet égard n'était pas douteux. La grâce qui fait le ministre vient du Seigneur, pensait-il. Mais l'Église examine cette grâce, la constate, la proclame par ses anciens. Et dans tout acte qui concerne la foi, elle peut toujours en appeler du ministre à la parole de Dieu. Examinez les esprits, éprouvez toutes choses, est-il dit à tous les fidèles. L'Église est juge des controverses, et c'est cette charge à laquelle elle ne doit jamais faire défaut qu'elle allait remplir dans la dispute de Berne. Le combat semblait inégal. D'un côté se présentait la hiérarchie romaine, ce colosse qui avait grandi pendant plusieurs siècles, et de l'autre, on ne voyait d'abord qu'un homme faible et timide, le modeste Berthold Haller. « Je ne sais point manier le glaive de la parole, disait-il, tout est perdu à ses amis, si vous ne me tendez la main sans effet. » Puis il se jetait en tremblant aux pieds du Seigneur et s'en relevait bientôt, rassuré, en criant « La foi au Seigneur me ranime et dissipe toutes mes craintes. » Cependant, il ne pouvait demeurer seul. Tous les regards étaient dirigés sur Zwingle. « C'est moi qui, à Bade, ai pris le bain, » écrivait Ecco Lampade à Haller. « Maintenant, c'est Zwingle qui, à Berne, doit conduire la danse des ours. » « Nous sommes entre l'enclume et le marteau, » écrivait Haller à Zwingle. « Nous tenons le loup par les oreilles et ne savons comment nous en défaire. » Les maisons des de Watteville, de Nol, de Trump, de Berthold nous sont ouvertes. Venez donc et commandez vous-même l'action. Zwingle n'hésita pas. Il demanda au conseil de Zurich la permission de se rendre à Berne pour y montrer que sa doctrine était pleine de crainte de Dieu et non blasphématoire, puissante pour répandre en Suisse la concorde et non pour y jeter le trouble et la division. En même temps que Haller recevait la nouvelle de la venue de Zwingle, Ecco Lampade lui-même lui écrivait « Je suis prêt s'il le faut à donner ma vie. Inaugurons l'année nouvelle en nous serrant dans les bras les uns des autres à la gloire de Jésus-Christ. » Voilà donc, s'écria Haller tout ému, les auxiliaires que le Seigneur envoie à mon infirmité pour livrer cette rude bataille. Il fallait user de prudence, car on connaissait la violence des oligarques et des cinq cantons. Les docteurs de Glaris, de Schaffhaus, de Saint-Gall, de Constance, d'Ulm, de Lindau, d'Augsbourg, se rassemblèrent à Zurich pour marcher sous la même escorte que Zwingle, Pélican, Colin, Mégandre, Grossmann, le commandeur Schmidt, Bollinger et un grand nombre d'ecclésiastiques de la campagne désignés pour accompagner le réformateur. Quand tout ce gibier traversa le pays, disaient les pensionnaires, nous nous mettrons à sa poursuite et nous verrons si nous ne parviendrons pas à le tuer ou à le mettre en cage. 300 hommes d'élite, choisis dans les tribus de Zurich et dans les communes de la banlieue, revêtirent leurs cuirasses et se chargèrent de leurs arquebuses. Mais pour ne pas donner à la marche des docteurs l'apparence d'une expédition militaire, on ne prit ni drapeau, ni fifre, ni tambour. Et le trompette de la ville, officier civil, cavalcada seul en tête de cette caravane. Ce fut le mardi 2 janvier qu'elle se mit en marche. Jamais Zwingle n'avait paru plus animé. « Gloire soit au Seigneur, disait-il, mon courage croît de jour en jour. » Le bourgmestre Roust, le secrétaire de ville Mangold et les maîtres S.A., Funk et Jaikli, délégués du conseil, étaient à cheval près de lui. On arriva à Berne le 4 janvier, n'ayant eu qu'une ou deux alertes peu importantes. L'église des Cordeliers devait être le lieu de la conférence. L'architecte de la ville, Tillmann, l'avait disposée d'après un plan que Zwingle avait envoyé. On y avait élevé une grande estrade sur laquelle se trouvaient deux tables qu'environnaient les chefs des deux partis. Parmi les évangéliques, on remarquait, outre Haller, Zwingle et Ecco Lampade, plusieurs hommes distingués de la Réforme, étrangers à la Suisse, Bucer, Capiton, Ambroise Blarère. Dans les rangs de la papauté, le docteur Tréguer de Fribourg, qui jouissait d'une grande réputation, paraissait devoir soutenir surtout le feu du combat. Du reste, soit crainte, soit dédain, les plus fameux docteurs de Rome étaient absents. Le premier acte fut de proclamer la règle de la dispute. On ne proposera, dit-on, aucune preuve qui ne soit tirée de l'Écriture sainte, ni d'autres explications de cette Écriture que celles qui proviendront de l'Écriture elle-même, expliquant les passages obscurs par ceux qui sont clairs. Puis, l'un des secrétaires chargés de l'appel cria, d'une voix qui retentit dans toute l'église des Cordeliers, « L'évêque de Constance ». Personne ne répondit. De même pour les évêques de Sion, de Bâle, de Lausanne. Aucun de ces prélats n'assistait à l'assemblée, ni en personne, ni par délégué. La parole de Dieu devant seul régner, la hiérarchie romaine manquait. Ces deux puissances ne peuvent marcher ensemble. Il y avait 350 ecclésiastiques, soit suisses, soit allemands. Le mardi 7 janvier 1528, le bourgmestre Vadian, l'un des présidents, ouvrit la dispute. Puis, le vieux Kolb, se levant, dit « Dieu agite à cette heure le monde entier. Humilions-nous donc devant lui. » Et il prononça avec ferveur une confession des péchés de tous. Cela fait, on lut la première thèse. Ainsi conçu. La Sainte Église chrétienne, dont Christ est l'unique chef, est née de la parole de Dieu, demeure en elle et n'écoute pas la voix d'un étranger. Alexigrat, Dominicain. Le mot unique n'est point dans l'Écriture. Christ a laissé un vicaire ici-bas. Allaire. Le vicaire que Christ a laissé, c'est le Saint-Esprit. Tréguer. Voyez donc où vous en êtes venu depuis 10 ans. Celui-ci s'appelle luthérien, celui-là zwinglien, un troisième carlostadien, un quatrième écolampadiste, un cinquième anabaptiste. Bucer. Quiconque prêche que Jésus est le seul sauveur, nous le tenons pour notre frère. Ni Luther, ni Zwingle, ni Écolampade ne veulent que les fidèles portent leur nom. Au reste, ne vantez pas tant une unité purement extérieure. Quand l'Antéchrist a eu le dessus sur toute la terre, en Orient par Mahomet, en Occident par le pape, il a su maintenir les peuples dans l'unité de l'erreur. Dieu permet les divisions afin que ceux qui lui appartiennent apprennent à regarder non aux hommes, mais au témoignage de la parole et à l'assurance du Saint-Esprit dans le cœur. Ainsi donc, frères bien-aimés, à l'Écriture, Église de Berne, tiens-toi à la doctrine de celui qui a dit « Venez à moi » et non « Allez à mon vicaire ». On disputa successivement sur la tradition, les mérites du Christ, la transsubstantiation, la messe, l'invocation des saints, le purgatoire, les images, le célibat et les désordres du clergé. Rome trouva de nombreux défenseurs, entre autres Murer, curé de Rapperswil, qui avait dit « Si l'on veut brûler les deux ministres de Berne, je me charge de les porter à l'échafaud ». Le dimanche 19 janvier, jour où l'on attaqua la messe, Zwingle, désireux d'agir aussi sur le peuple, monta en chaire. Et, ayant récité le symbole des apôtres, il fit une pause après ces mots. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, il en reviendra pour juger les vivants et les morts. Ces trois articles de notre foi, dit-il, sont en contradiction avec la messe. Tout l'auditoire redoubla d'attention, et un prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux, se préparant près d'un autel à célébrer le saint sacrifice, s'arrêta, frappé des paroles de Zwingle. Debout devant la table de pierre, où reposaient le calice et le corps du Sauveur, ne perdant pas de vue le réformateur dont la parole électrisait le peuple, en proie au plus violent combat, accablé sous le poids de la vérité, le prêtre ému se résolut à tout sacrifier pour elle. En présence de l'assemblée, il se dépouilla de ses ornements sacerdotaux, et les jetant sur l'autel, il s'écria « Si la messe ne repose pas sur un fondement plus solide, je ne puis plus la célébrer. » Le bruit de cette conversion, opérée à l'heure du sacrifice, se répandit bientôt dans toute la cité et l'on y vit un important présage. Tant que la messe demeure, Rome a tout gagné. Dès que la messe tombe, Rome a tout perdu. La messe est le principe créateur du système de la papauté. 3 jours plus tard, le 22 janvier, était la fête de Saint Vincent, patron de la ville. La dispute qui avait continué le dimanche fut suspendue ce jour-là. Les chanoines demandèrent au conseil ce qu'ils avaient à faire. « Ceux d'entre vous, répondit le conseil, qui reçoivent la doctrine des thèses, ne doivent point dire la messe. Les autres peuvent célébrer le culte comme à l'ordinaire. » On prépara donc les solennités accoutumées. Dès la veille, les cloches en branle annoncèrent la fête au peuple bernois. Le matin, les sacristains allumèrent les cierges, et l'encens brûla dans le temple. Mais personne ne parut. Point de prêtre pour dire la messe, point de fidèle pour l'entendre. Déjà, il y avait dans le sanctuaire de Rome un vide immense, un silence profond, comme en un cimetière, où il n'y a que les cendres des morts. Le soir, les chanoines avaient coutume de chanter les vêpres en grande pompe. L'organiste se trouva à son poste, mais personne encore ne parut. Le pauvre homme seul, voyant tristement tomber le culte qui le faisait vivre, épancha sa douleur en jouant, au lieu du majestueux Magnificat, un cantique de deuil. Ô malheureux Judas, qu'as-tu fait que tu aies trahi notre Seigneur? Après ce triste adieu, il se leva et sortit. Presque aussitôt, des hommes, échauffés par les passions du moment, se précipitèrent sur ces orgues chéris, complices à leurs yeux de tant de pratiques superstitieuses, et leurs rudes mains les brisèrent. Plus de messe, plus d'orgues, plus d'antienne. Une nouvelle scène et de nouveaux chants vont remplacer les rites de la papauté. Le lendemain, même silence. Cependant, tout à coup, une troupe d'hommes à la voix haute et au pas précipité se fit entendre. C'était la tribu des bouchers qui, dans ce moment funeste à Rome, voulait la soutenir. Ils s'avançaient portant des branches d'arbres et de petits sapins pour en orner leur chapelle. Au milieu d'eux se trouvait un prêtre étranger. Derrière lui marchaient quelques pauvres écoliers. Le prêtre officia. La douce voix des écoliers remplaça l'ordre muet, et la tribu des bouchers se retira, glorieuse de son triomphe. La dispute approchait de sa fin. Les soutenants avaient argumenté avec vigueur. Burgauer, pasteur de Saint-Gall, avait défendu la présence réelle dans l'hostie. Mais le 19 janvier, il s'était déclaré convaincu par les raisons de Zwingle, des Colampades et de Bucer. Et Matthias, ministre de Sengen, en avait fait autant. Il y eut ensuite une conférence en latin entre Farel et un docteur de Paris. Ce dernier mit en avant un argument étrange. Les chrétiens, dit-il, sont tenus d'obéir au diable, car il est dit, Matthieu, chapitre 5, verset 25, « Soumets-toi à ton adversaire. » Or, notre adversaire, c'est le diable. À combien plus forte raison faut-il être soumis à l'Église ? De grands éclats de rire accueillirent ce singulier syllogisme. Une dispute avec les anabaptistes termina l'action. Les deux conseils arrêtèrent que la messe serait abolie et que chacun pouvait enlever des églises les ornements qu'il y avait placés. Aussitôt, 25 autels et un grand nombre d'images furent détruits dans la cathédrale, sans désordre cependant et sans effusion de sang. Et les enfants se mirent à chanter dans les rues « C'est Luther qui nous l'apprend ». D'un dieu pilé dans un mortier, Dieu même, à la fin, nous délivre. Les fidèles de la papauté, entendant tomber l'un après l'autre les objets de leur culte, avaient le cœur rempli d'amertume. Si quelqu'un, s'écriait Jean Schneider, ôte l'autel de la tribu des bouchers, moi, je lui ôterai la vie. Pierre Thormann comparait la cathédrale dépouillée de ses ornements à une écurie. Quand les gens de l'Oberland viendront au marché, ajoutait-il, ils seront heureux d'y mettre leurs bêtes. Et Jean Zeander, membre du Grand Conseil, voulant montrer le cas qu'il faisait d'un tel temple, y entra monté sur un âne, insultant et maudissant la réforme du hon de son baudet. Un Bernois, qui se trouvait là, lui ayant dit « C'est par la volonté de Dieu qu'on a ôté les images », Zeander répondit « Dis plutôt par la volonté du diable. Quand es-tu trouvé avec Dieu pour apprendre ainsi sa volonté ?» Il fut condamné à 20 livres d'amende et expulsé du conseil. « Ô temps, ô mœurs !» s'écriaient plusieurs catholiques romains. « Ô négligence coupable ! Qu'il eût été facile de prévenir un si grand mal. Ah, si nos évêques avaient seulement voulu s'occuper davantage des lettres et de leurs maîtresses un peu moins. Cette réforme était nécessaire. Quand, au IVe siècle, le christianisme avait vu la faveur des princes succéder à la persécution, une foule de païens s'était précipitée dans l'Église. Et il y avait entraîné avec eux le paganisme, ses images, ses pompes, ses statues, ses demi-dieux. Et quelque chose de semblable au mystère de la Grèce, de l'Asie et surtout de l'Égypte avait remplacé, dans les oratoires chrétiens, la parole du Christ. Au XVIe siècle, cette parole étant revenue, il fallait que l'épuration se fît. Mais elle ne pouvait se faire sans de douloureux déchirements. Le départ des étrangers approchait. Le 28 janvier, lendemain du jour où l'on avait abattu les images et les autels, tandis que leurs débris entassés encombraient encore çà et là les parvis du temple, Zwingle, traversant ces ruines éloquentes, monta une fois encore en chaire, au milieu d'une foule immense. Ému, laissant tomber tour à tour ses regards sur ses débris et sur le peuple, il s'écria « La victoire est à la vérité, mais la persévérance seule peut achever son triomphe. Christ a persévéré jusqu'à la mort. Ferrando vincitur fortuna. » Cornelius Scipion, lors du désastre de Cannes, pénétra dans la salle du conseil, tira son épée et contraignit les chefs épouvantés à jurer qu'ils n'abandonneraient point Rome. Citoyens de Berne, je vous adresse la même demande. N'abandonnez point Jésus-Christ. On peut comprendre l'effet que produisait sur tout le peuple de telles paroles, prononcées avec l'éloquence énergique d'un Zwingle. Puis, se tournant vers les débris qu'il avait sous les yeux, « Les voilà, dit-il, les voilà, ces idoles, les voilà, vaincues, muettes, brisées devant nous. » il faut que ces cadavres soient jetés aux gémonies, et que l'or que vous avez dépensé à ces folles images soit consacré dorénavant à soulager dans leur misère les images vivantes de Dieu. Homme faible, qui versait des larmes sur ces tristes idoles. Ne voyez-vous donc pas qu'elles se brisent? N'entendez-vous pas qu'elles craquent comme tout autre bois et comme toute autre pierre? Voyez, en voici une à laquelle on a ôté la tête. Zwingle montrait du doigt l'image, et tout le peuple fixait les regards sur elle. En voici une autre à laquelle on a enlevé un bras. Si ces traitements avaient fait quelque mal aux saints qui sont dans le ciel, et qu'ils eussent la puissance qu'on leur attribue, eussiez-vous pu, je le demande, leur couper les bras et la tête? Maintenant donc, dit en finissant le puissant orateur, tenez-vous ferme dans la liberté dans laquelle Christ vous a placé, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5.1. Ne craignez point. Ce Dieu qui vous a éclairé éclairera aussi vos confédérés. Et la Suisse, renouvelée par l'Évangile, fleurira dans la justice et dans la paix. Les paroles de Zwingle ne furent pas inutiles. La miséricorde de Dieu provoqua celle des hommes. On fit grâce à des séditieux condamnés à mort. Et on rappela tous les bannis. Ne l'aurions-nous pas fait, dit le conseil, si un grand prince nous eût visités? Ne le ferons-nous donc pas bien davantage, maintenant que le roi des rois et le rédempteur de nos âmes a fait son entrée chez nous, nous apportant une amnistie éternelle? Les cantons romains, irrités de l'issue de la dispute, cherchèrent à troubler le retour des docteurs. Arrivés devant Bremgarten, ceux-ci en trouvèrent les portes fermées. Le bailli Schütz, qui les accompagnait avec 200 hommes d'armes, mit alors deux hallebardiers devant le cheval de Zwingle, deux derrière, un de chaque côté. Puis, se plaçant lui-même à la gauche du réformateur, tandis que le bourgmestre Rost se rangeait à sa droite, il ordonna au cortège de marcher lance en avant. Les avoyers de la ville intimidés parlementèrent. Les portes s'ouvrirent. Le cortège traversa Bremgarten au milieu d'une foule immense et arriva le 1er février, sans accident, à Zurich. Où Zwingle rentra, dit Luther, comme un triomphateur. Le parti romain ne se dissimulait point l'échec qu'il venait de recevoir. Notre cause s'écroule, disaient les partisans de Rome. Ah, si nous avions eu des hommes plus versés dans la Bible! La véhémence de Zwingle soutient nos adversaires. Jamais son ardeur ne s'est ralentie. Cette bête a plus de savoir qu'on ne le croyait. Hélas, hélas, le parti le plus grand a vaincu le meilleur. Cependant, le conseil de Berne se séparait du pape et s'appuyait sur le peuple. Dès le 30 janvier, ses messagers allant de maison en maison convoquaient les citoyens. Et le 2 février, bourgeois, habitants, maîtres, valets, tous réunis dans la cathédrale, et ne formant qu'une seule famille, levaient la main et juraient de défendre les deux conseils dans tout ce qu'ils entreprendraient pour le bien de l'État ou de l'Église. Les conseils publièrent le 7 février 1528 un édit général de réforme et rejetèrent à jamais, loin des Bernois, le joug des quatre évêques qui, disaient-ils, savaient tondre leurs brebis, mais non les paître. Pendant ce temps, la réforme se répandait parmi le peuple. On entendait partout des dialogues vifs et piquants, rimés par Manuel, dans lesquels la messe pâle, expirante, couchée sur son lit de mort, appelait à grands cris tous les médecins, et voyant leurs avis inutiles, dictait enfin d'une voix cassée son testament, accueilli par les rires éclatants du peuple. On a reproché à la Réformation en général, à celle de Berne en particulier, d'avoir été produite par des raisons politiques. Tout au contraire. Berne, qui, entre les États helvétiques, était le favori de la cour de Rome, qui n'avait dans son canton ni un évêque à renvoyer, ni un clergé puissant à humilier, Berne, dont les familles les plus évangéliques, les Weingarten, les Manuel, les May, avaient de la peine à sacrifier le service et les pensions de l'étranger, et dont toutes les traditions étaient conservatrices, devait s'opposer au mouvement. La parole de Dieu fut la plus puissante qui surmonta ces tendances politiques. À Berne, comme ailleurs, ce ne fut ni l'esprit scientifique, ni l'esprit démocratique, ni l'esprit sectaire qui donna naissance à la Réformation. Sans doute, les littérateurs, les libéraux, les sectaires enthousiastes vinrent se jeter dans la grande mêlée du XVIe siècle. Mais la vie de la Réforme n'eût pas été longue si c'eût été d'eux qu'elle l'eût reçue. Les forces primitives du christianisme, renouvelées après des siècles d'une longue et grande prostration, tel fut le principe créateur de la Réformation. Et on la vit bientôt se séparer nettement des faux alliés qui s'étaient offerts à elle, rejeter une érudition incrédule en relevant l'étude des classiques, réprimer l'anarchie démagogique en maintenant la vraie liberté, et répudier les sectes enthousiastes en consacrant les droits de la parole et du peuple chrétien. Mais, tout en maintenant que la Réformation fut à Berne comme ailleurs une œuvre essentiellement chrétienne, nous sommes loin de dire qu'elle ne fut point utile à ce canton sous le point de vue politique. Tous les États européens qui ont embrassé la Réforme ont été élevés. Tous ceux qui l'ont combattue ont été abaissés.